Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Pour débuter cette nouvelle saison, j'ai eu envie d'évoquer pour vous Catherine de Médicis. Non pas la reine, mais la femme et la mère. On dit souvent d'elle qu'elle fut une mère tyrannique. Aujourd'hui, on parlerait d'ailleurs plus volontiers d'une mère abusive. Cette réputation résiste-t-elle à l'examen des faits? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode inédit, à écouter en deux parties.
Ce breuvage est infect. Je ne puis plus souffrir cette urine de mule. Mio Dio, je vous en conjure, donnez-moi un fils. Faites qu'enfin je sois grosse et que je puisse en finir avec ces potions répugnantes et ces affreux cataplasmes de vers de terre et de bouse de vache.
Cette femme qui implore Dieu de lui donner un enfant, c'est Catherine de Médicis. Unique héritière de Laurent de Médicis, Catherine, duchesse d'Urbino, a épousé à 14 ans Henri, le second fils de François Ier. Le mariage a eu lieu à Marseille en présence du pape le 28 octobre 1533. C'était il y a 10 ans et depuis, elle ne parvient toujours pas à être enceinte. À la cour, où l'on considère la stérilité comme une honte et une malédiction, on a d'abord ri sous cap. Brocarder cette Italienne. Tout le monde sait que si François Ier l'a choisie, c'est uniquement pour la dot mirobolante et les possessions italiennes qu'elle apportait au royaume de France. Le roi n'aime que les belles femmes. Or, Catherine, bon, il faut bien le dire, n'est pas particulièrement jolie, elle est plutôt petite et un peu boulotte. Mais le 10 août 1536, les quolibets cessent d'un coup. Ce jour-là, le dauphin François meurt à 18 ans, sans descendance, vraisemblablement à la suite d'une pleurésie. Le mari de Catherine est le nouvel héritier du trône et elle, la future reine de France. Mais une reine stérile, cela ne se peut. Catherine vit donc dans l'angoisse de la répudiation et voilà pourquoi elle ingurgite des rasades d'urine de mule. Pourquoi l'urine de mule? Parce que le mâle doit être combattu par le mâle. Or, la mule n'est-elle pas, elle aussi, stérile? En revanche, interdiction absolue de chevaucher à dos de mule, car alors la stérilité de la monture se communiquerait immanquablement à sa cavalière. C'est du moins ce que croit savoir la médecine d'alors, encore balbutiante et teintée d'astrologie. Une médecine qui ne comprend pas grand-chose aux mécanismes de la procréation. Pour Catherine, l'absence d'enfant tourne à l'obsession, d'autant qu'Henri, alors qu'il guerroyait en Italie, a engrossé une certaine Philippa Ducci, que l'on ramène en France et dont on surveille de très près la grossesse. L'enfant, une petite fille, née en 1538, sera légitimée sous le nom de Diane de France. Cette fois, Catherine se croit perdue. Jusqu'alors, on admettait volontiers qu'Henri puisse avoir une petite part dans son infertilité, car lui-même est affecté d'une distorsion du sexe appelée hypospadias. En gros, une anomalie empêchant la semence delphinale, comprenez le sperme, d'arriver à bon port. Mais puisque le voilà père, Catherine se croit la seule coupable. Heureusement, le bon sens va finir par l'emporter. Catherine et Henri consultent Fernel, un médecin éclairé, qui va leur enseigner pour leurs ébats certaines postures de nature à surmonter la particularité physiologique d'Henri II. Fini l'urine de mule et la purée de vers de terre. Mai 1543. Ça y est, Catherine est enceinte. Son premier enfant, François, naît le 19 janvier 1544. Sa stérilité tenace aura donc duré 10 ans, entre ses 14 et ses 24 ans. Mais malgré cette heureuse nouvelle, l'heure est encore à la frustration pour Catherine, car elle a une rivale toute puissante, à laquelle elle doit à la fois ses plus grands moments de joie, bien sûr, mais aussi ses pires tourments. La dauphine, Catherine, dépend en effet entièrement du bon vouloir de la maîtresse de son mari, Diane de Poitiers. Car si Henri estime et respecte Catherine, il ne l'a jamais aimée, et se passerait fort bien de faire son devoir conjugal si Diane ne le poussait régulièrement dans la chambre de son épouse. Michelet a décrit la situation en ces termes.
Quand Henri II couchait avec sa femme, c'est que Diane l'avait exigé.
Diane transforme Catherine en poule pondeuse. Elle est constamment enceinte et comble de l'humiliation. Dès qu'elle a un enfant, Diane le prend et se charge de l'élever. Jamais Catherine n'aura voix au chapitre dans le choix des nourrices ou des maîtres de ses propres enfants. Pour la maîtresse, ce ne sont pas les enfants de Catherine. De toute façon, Catherine n'est qu'un ventre, mais ce sont ceux d'Henri. C'est Diane qui règne en pleine lumière sur le cœur du roi. Catherine n'a de reine que le titre. Ce ménage à trois va durer tout de même 20 ans. Le soir, quand il arrive qu'ils soient réunis tous les trois, Henri envoie sa femme se coucher comme on le ferait pour un enfant. Un contemporain a pu raconter que dans ces moments-là, elle part en donnant des coups de pied furieux dans les meubles, ivre de rage, de jalousie et d'humiliation. Son biographe Jean Horieux ajoute
« C'est l'intelligence des deux femmes et la soumission de Catherine qui permit à ce trio de durer aussi longtemps. » Elle étouffait ses sentiments, tentait de juguler le fleuve de haine qui en aurait emporté bien d'autres.
Mais le 30 juin 1559, tout bascule. Henri II est mortellement blessé au cours d'un tournoi d'un coup de lance reçu dans l'œil. Catherine est au désespoir, mais enfin, il lui est donné de pouvoir agir en reine et notamment de se payer le luxe d'interdire à Diane l'accès à la chambre où le roi va agoniser 10 jours durant. Jusqu'à sa mort, le 10 juillet. Vivant, le roi appartenait à Diane. Mourant, il lui appartient à elle. Pendant 20 ans, elle a vécu dans l'ombre, feint la soumission à sa rivale. Mais voici son heure venue. Aussitôt, Catherine fait dire à Diane de quitter la cour et de restituer les bijoux de la couronne dont Henri lui avait fait cadeau. Diane, de son côté, s'attend à ce que Catherine se venge, mais au contraire, elle se montre parfaitement élégante compte tenu des circonstances. Elle se contente de récupérer le château de Chenonceau, bien inaliénable de la couronne, et donne en échange à Diane le château de Chaumont. Quel fair play ! Cela ne l'empêchera pas 40 ans plus tard, dans ses lettres à sa fille Marguerite, de qualifier sa rivale de « putain du roi ». Catherine est tellement bouleversée par la mort de son mari qu'elle ne peut plus supporter la vue des lieux où il a rendu l'âme. Elle fait raser le château des Tournelles, sur les ruines duquel Henri IV créera plus tard la place des Vosges. Désormais, elle ne s'habillera plus qu'en noir et prendra comme emblème une lance brisée portant pour devise « Lacrimae inc, inc dolor, de là viennent mes larmes et ma douleur ». Catherine a désormais 40 ans. La mort d'Henri a fait d'elle la régente du royaume de France, mais au prix de combien de souffrances. Du plus loin qu'elle se souvienne, elle a toujours été accablée par les deuils et les tragédies. Elle a perdu ses parents, son mari, 5 enfants. Alors peut-on lui en vouloir de ressentir le besoin de surprotéger ceux de ses enfants qui ont survécu? Et puis n'a-t-elle pas été longtemps privée d'eux par Diane? Ses enfants ont perdu leur père. Ils sont fragiles et trop jeunes pour régner alors que leur pouvoir est menacé. C'est pour cela que Catherine va devenir cette mère omniprésente, omnipotente, ambitieuse, mais aussi parfois machiavélique. Elle est la seule à pouvoir se montrer à la hauteur des événements qui agitent alors la France. Elle dit
« Pour que notre pouvoir eût quelque vie dans cette époque, il fallait dans l'État un seul Dieu, une seule foi, un seul maître. »
Ce seul maître, ce sera elle. Certes, son fils François est le roi en titre, mais il a 15 ans et demi, et c'est un jeune garçon très fragile. À tel point d'ailleurs que lorsqu'il s'est rendu auprès de son père mourant, il s'est évanoui sous le coup de l'émotion.
Chétif, laid, malsain, une mauvaise conformation l'empêchait de respirer, sauf la bouche ouverte. Les humeurs du nez et de la bouche s'écoulaient par un abcès dans l'oreille. Avec cela, inintelligent, irritable, sujet à des emportements frénétiques, à des pertes d'équilibre, à des accès d'agressivité morbide.
François n'a d'autre volonté que celle de sa mère. Il est incapable de prendre une décision sans elle. Voici d'ailleurs le préambule de tous les actes royaux de son règne éclair.
Étant le bon plaisir de la reine, ma mère et dame, moi aussi, approuvant les choses dont elle est d'avis, je suis content et je commande que...
On l'aura compris, c'est Catherine qui décide et le docile François II qui signe. Peu de temps au demeurant, puisqu'après moins d'un an et demi de règne, il meurt d'une mastoïdite, une infection bactérienne de l'oreille, le 5 décembre 1560. Côté santé, ses frères et sœurs ne valent malheureusement guère mieux. Tous souffrent à des degrés divers d'affections tuberculeuses et aucun d'entre eux n'a la santé de leur grand-père, François Ier, ou même la robustesse de leur père, Henri II. Pas brillant le sang sacré des Valois. 10 jours après la mort de François, lors d'états généraux, Catherine prend la haute main sur les affaires d'un royaume de France convoité par de puissants clans et menacé de sombrer dans les guerres de religion. Si elle veut préserver l'autorité monarchique des Valois, donc l'avenir de ses enfants, il va lui falloir louvoyer entre le parti des Guises, soutenu par le très catholique Philippe II, roi d'Espagne, et celui des Condés, protestants, soutenu par Élisabeth d'Angleterre, le tout sur fond de conflits aux Pays-Bas espagnols. Du pain sur la planche en perspective pour une veuve mère de famille nombreuse. Charles IX n'a que 10 ans lorsqu'il succède à François II. Un curieux garçon, ce Charles, pas très équilibré. La vue du sang lui procure une excitation morbide et il n'aime rien tant que de chasser à l'arme blanche et enfoncer son couteau dans la chair des animaux. Il faut dire qu'à l'âge de 10 ans, on l'a obligé à assister au supplice et à la décapitation de 52 chefs protestants. Éclaboussé par le sang, l'assistance avait été stupéfiée, tétanisée par l'horreur du spectacle. Nul n'aurait pu en ressortir indemne, alors moins encore un jeune garçon aussi instable. Comme celui de son frère aîné, son règne de 13 ans sera surtout celui de Catherine. Elle le couve et ne le quitte pas d'une semelle. Charles IX lui remet tous les pouvoirs, car fondamentalement, régner ne l'intéresse pas. Il n'aime que les armes, la chasse, la vénerie. Il rédigera d'ailleurs peu de temps avant sa mort un traité sur la chasse aux cerfs qui fera longtemps autorité. Il est surtout un homme de plein air. Il s'exténue dans toutes sortes d'exercices violents qui l'aident à surmonter ses crises de rage, mais probablement aussi à se prouver qu'il est encore vivant. Car le malheureux Charles meurt à petit feu de la tuberculose. Alors il martèle l'enclume comme un forcené, façonne toutes sortes d'objets, souffle comme un perdu dans une trompe de chasse ou s'extermine dans l'amour, selon la formule de Michelet. Mais de nos jours, on dirait de Charles IX qu'il est vraiment borderline. Avec ce fils, Catherine a un gros sujet d'inquiétude. L'amiral Gaspard de Coligny, l'un des chefs du parti protestant avec Condé, a pris sur lui un ascendant grandissant. Privé trop jeune d'un père dont il vénère la mémoire, Charles est en admiration devant lui. Il l'appelle d'ailleurs « mon père ». L'influence de Coligny sur le jeune roi est capitale pour le clan protestant. Qui tient le roi, tient le royaume. Si le roi se convertit, le royaume entier suivra. Charles IX et ses frères seront tentés d'ailleurs par la conversion et s'ils n'avaient pas eu aussi peur de leur mère, c'eût été chose faite. Mais elle les en dissuada énergiquement. La nièce d'un pape loti d'enfants calvinistes, oh, il aurait fait beau voir un tel scandale. Néanmoins, Catherine tente d'imposer une certaine concorde dans le royaume, et c'est elle qui sera à l'origine de différents édits et traités de paix, accordant aux protestants la liberté de conscience, ainsi qu'une certaine liberté religieuse. Faute de parvenir à convertir Charles, Coligny mène une entreprise de sape pour le pousser à s'affranchir de la tutelle de sa mère. Il encourage les rêves de gloire de ce frêle roitelet qui a déjà un pied dans la tombe, le persuadant qu'il pourrait, à la tête de son armée, venir en aide aux révoltés des Pays-Bas et vaincre la très catholique et très arrogante Espagne. Incapable de trancher sans la présence de sa mère, Charles y renoncera finalement, tout comme il avait naguère renoncé à la conversion. On ne se battra donc pas aux Pays-Bas, mais en France même, où couve à présent la guerre civile. C'est alors que Catherine, aveuglée par son amour pour son fils préféré, Alexandre-Édouard, duc d'Anjou, futur Henri III, fait désigner celui-ci comme lieutenant général des armées françaises. C'est de la folie! Ce n'est qu'un bellâtre de 16 ans qui n'en a ni la maturité ni la force. Le royaume de France court à la catastrophe. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'histoire consacré à Catherine de Médicis.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit et raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Il a été réalisé par Oscar Vatter. Bibliographie. Henri II par Didier Le Fur aux éditions Talendier, 2009. Catherine de Médicis par Jean Aurieux aux éditions Flammarion, 1986. Catherine de Médicis par Yvan Cloulas aux éditions Fayard, 1979. Charles IX par Emmanuel Bourassin aux éditions Artaud, 1986. Testament de Catherine de Médicis, Archives royales de Chenonceau, par M. l'abbé Chevalier, 4 volumes, Paris, par Jean Techner, 1862. La triple vie de la reine Margot, par Jean Castared, aux éditions France Empire, 2011.